Mesdames, Messieurs, le professeur Susanna Brandt est ce mois notre invité dans le cadre de notre convention d'échange avec le Peter Wall Institute for Advanced Study de Vancouver, au Canada, en Colombie-Britannique. Elle a fait ses études à Cambridge et c'est là aussi qu'elle a soutenu en 1984 son doctorat, son PhD sur Juvenal déjà, et les satires 8 et 9 si je me rappelle bien. Elle a enseigné ensuite, comme beaucoup de Britanniques le faisaient, aux universitaires d'Exeter, de Bristol, à l'université de Londres, Royal Holloway, puis à Yale, Stanford University, et enfin à l'université de Colombie-Britannique, où elle occupe une des chaires de recherche canadienne. Ce sont 2000 chaires données en l'an 2000 pour, c'est quelque chose comme l'IUF en France, pour faire moins de cours et plus de recherche. Et il n'y a eu que deux littéraires, je crois, qui ont eu cette chaire. Donc, l'une d'elles, vous l'avez devant vous. Et elle est donc professeure de littérature, de poésie latine et de la réception aussi des thèmes et de la poésie et des thèmes de la poésie latine à l'époque moderne. Susan Brandt est une éditrice et une interprète de la poésie latine, spécialisée, comme vous l'imaginez, déjà d'après sa thèse, de la satire, notamment de Juvenal. Aussi a-t-elle publié au moins 5 livres sur ce sujet. Il y a d'abord Beyond Anger, une étude du troisième livre des satires de Juvenal. Il y a eu aussi les satires de Juvenal, livre 1, dans les Cambridge Greek and Latin Series. Il y a eu Juvenal et Perse dans la librairie Loeb, la nouvelle édition, en 2004. Puis il y a Roman Verse Satire en 92 et Roman Satirists and Their Masks, encore une série d'ouvrages sur la satire. Mais elle a aussi d'autres amours, notamment Lucain, dont elle a donné une traduction versifiée, oui, avec les notes, l'introduction, etc. Et de nouveau, aussi d'autres objets d'études, comme le De Clementia de Sénèque, ce que j'apprécie beaucoup, puisque j'aime beaucoup dans mes études augustéennes ce texte, qui est très, très intéressant pour nous. Et enfin, elle a aussi fait une histoire de la littérature latine chez Routledge et qui tient compte notamment d'une chose dont elle va nous parler au cours de ce mois, c'est-à-dire la traduction en langue vernaculaire, comme on disait autrefois, des textes classiques. Et c'est donc un de ces aspects, c'est le deuxième aspect de ses recherches sur la réception et la reproduction, la diffusion de ses travaux. Je passe évidemment sur les très nombreux livres coédités et articles pour vous introduire tout de suite au sujet d'ici, d'aujourd'hui, qui concerne, vous pouvez le voir, non seulement la littérature latine, mais aussi la musique, et puis un personnage intellectuel très connu à Paris que vous découvrirez dans la suite, et c'est tout à fait inattendu, vous le verrez. Avant de lui laisser la parole, je dirais un mot sur le programme. Faites attention, vous êtes habitués à ce que ces cours se fassent chaque semaine, mais en raison de la Pentecôte et des nombreux jours fériés de cette période, on a réussi à mettre dans la semaine du 16 deux cours, le 16 et le 19. Hein, faites attention à ce détail qui va contre nos rites, mais bon, c'est au mois de mai, de juin, il faut être un peu attentif au jour de fête. Je vous remercie, Susanna.
Bien, je suis tellement sensible de l'honneur d'avoir été invitée par l'Assemblée des professeurs du Collège de France à venir donner une série de 4 conférences Je voudrais remercier particulièrement le professeur Jean Scheid pour son aide et sa patience. Je remercie aussi le Peter Wall Institute of Advanced Studies, l'Institut d'études avancées Peter Wall à l'Université de la Colombie-Britannique pour la nomination de venir à Paris et particulièrement la directrice, la professeure Janice Sarah pour son avis et appui. Et je suis heureuse de partager avec vous mes recherches au sujet de la réception des poètes latins dans la littérature européenne. Deux de mes conférences prendront pour leur matière l'Énéide de Virgile. Dans la dernière conférence, je discuterai l'influence de Sénèque, dramaturge romain, sur la tragédie française et anglaise. Aujourd'hui, je vous souhaite découvrir l'essence de Sénèque. Je vais expliquer comment ses mots et sa vision tragique ont été utilisés pour réaliser les intentions de Stravinsky dans son opéra Œdipe Roi. Le cas étrange du livret latin de l'Œdipe Roi de Stravinsky. L'opéra d'Igor Stravinsky, intitulé Œdipe Roi, écrit en 1927, est une œuvre qui offre un véritable mélange d'éléments internationaux dans sa création et sa réception. Le compositeur russe, qui a vécu en Russie, en France, en Suisse et aux États-Unis, a eu l'idée de composer un opéra en langue latine sur un sujet d'une tragédie du monde antique que chacun connaîtrait. Il a choisi la pièce de Sophocle, Œdipe Roi, et il a invité Jean Cocteau à en faire l'adaptation. Puis, Jean Danielou a traduit le livret de Cocteau en latin. Plus de 60 ans plus tard, l'opéra a reçu une production mémorable au Japon, dirigée par Julie Taymor, directrice américaine extraordinaire sur scène et au cinéma. Pour cette production, Taymor a utilisé les formes dramatiques du Japon et des chanteurs occidentaux. Je reviendrai à la production de Taymor plus tard. Premièrement, je voudrais porter mon attention sur le livret de l'opéra et étudier les synergies entre les mots et la musique. Je propose la réhabilitation du livret latin composé par Danielou. Mon analyse commencera par une brève discussion des intentions de Stravinsky au moment où le musicien a envoyé le livret français de Cocteau à Danielou pour le traduire en latin, une langue inaccessible pour la plupart de son auditoire. Par la suite, je présenterai un résumé des opinions négatives qui ont été émises au sujet du livret de Danielou en les critiquant à mon tour. Je soutiens que le livret est en adéquation parfaite avec l'intention de Stravinsky de créer un opéra monumental et qu'il offre un complément verbal à la monumentalité monolithique de la musique. Je soutiens aussi que Danielou n'essaie pas de tuer, contrairement à ce que les critiques affirment généralement, de reproduire en latin les effets de la langue grecque de Sophocle, mais plutôt qu'il était influencé et inspiré par la langue latine utilisée par Sénèque, le dramaturge romain, dans sa tragédie Œdipe. Je finirai avec quelques exemples de la réalisation visuelle de l'opéra par Julie Taymor en 1992. Avant de commencer, je veux partager mon enthousiasme pour cet opéra. C'est un véritable tour de force. Pensez aux mots de Virgil Thompson, compositeur américain et critique musical, dans un essai sur les opéras de Stravinsky. Il a appelé l'opéra un chef-d'œuvre, a masterpiece, a wonderwork. Tout d'abord, quelques remarques sur le contexte. Stravinsky s'est essayé à l'opéra dès 1909, mais pendant les années qui suivirent, il s'est dévoué principalement au ballet. Sergei Diaghilev lui a demandé de composer L'Oiseau de Feu, Petrouchka et Le Sacre du Printemps pour sa troupe des ballets russes. Ses œuvres appartiennent à sa période dite russe. Stravinsky a quitté la Russie pour la France en 1914. Pendant les années 20, ses choix artistiques ont changé sous l'influence des bouleversements politiques. Il a dit « La perte de la Russie et de son patrimoine culturel, linguistique et musical a affecté mon existence dans tous les aspects. Elle a rendu tout retour à la normale extrêmement difficile. Il m'a fallu 10 ans de recherche pour me frayer un chemin jusqu'à Oedipus Rex. » Fin de citation. Cette œuvre, qui correspond à sa période dite néoclassique, montre sa décision de composer selon les canons internationaux de la musique européenne, avec une volonté de reconstruction après le désastre de la guerre mondiale et de redécouvrir les valeurs de la culture classique. Il est donc arrivé à l'Œdipe roi de Sophocle. Comme je l'ai déjà mentionné, il a demandé à Jean Cocteau d'adapter et de réduire le texte, comme Cocteau l'avait déjà fait avec Antigone. Mais Stravinsky n'a pas aimé l'adaptation de Cocteau, qui lui a renvoyé plusieurs fois. Nous le savons parce que Cocteau s'est plaint des exigences de Stravinsky dans ses lettres à sa mère. Finalement, le livret a été donné pour être traduit en latin au jeune Danielo, alors âgé de 20 ans, et qui devint par la suite prêtre jésuite, cardinal et membre de l'Académie française. Le but principal de Stravinsky dans cet opéra était de créer de la musique monumentale. Il voulait un opéra oratorio statique et sans mouvement, dans lequel presque rien ne distrairait de la musique. Il a appelé son Oedipe roi un still life and a waxworks opera, une nature morte. Il a utilisé le mot monumental. Comme William Shepherd a écrit, Stravinsky, vous l'avez sur l'écran, Stravinsky a créé la musique statique dans laquelle la vitalité rythmique est formalisée par la répétition brute et dans laquelle les voix sont rigidement sculptées par le ton musical. C'est-à-dire, tous les sons sont subordonnés au rythme de la musique. Sa volonté de faire quelque chose de monumental explique pourquoi il a choisi le latin, langue hiératique, impersonnelle, abstraite et surtout obscure. Le même but explique aussi l'utilisation des masques pour les chanteurs, parce qu'il a voulu éliminer le individualisme et les instructions aux acteurs de s'asseoir immobiles comme des statues. Stravinsky a voulu que les mots ne distraient pas de la musique et n'a donc pas aimé que Cocteau ait donné au narrateur les passages explicatifs en français. Il a voulu éliminer entièrement les explications du narrateur. Plus tard, il a dit qu'il détestait l'invention du narrateur. De plus, il s'est fâché furieusement quand, dans une des premières représentations de l'opéra, Cocteau a joué le rôle du narrateur avec tant d'extravagance qu'il a volé la vedette. Mais le rôle du narrateur a survécu et, à propos, utilise la langue vernaculaire dans chaque pays où l'opéra est monté. Par conséquent, nous verrons que le narrateur dans la production de Temo parle japonais. C'est la même chose à l'égard du latin. Stravinsky a considéré les mots du livret en rapport avec les éléments sonores et il les a utilisés sans égard pour leur sens. En outre, il les a situés dans les contextes musicaux qui minimisent la possibilité de les comprendre. Par exemple, le nom Oedipus peut être prononcé Oedipus ou Oedipus. Il a dit que le mot est simplement de la martyre qui fonctionne dans la musique comme un bloc de marbre ou de pierre dans une œuvre de sculpture ou d'architecture. L'effet acoustique est austère et lapidaire. Avant d'analyser le livret latin, je vous résume rapidement l'intrigue de l'opéra en examinant ce que dit le narrateur. Les mots du narrateur mettent en valeur le procédé artistique. En réalité, Virgil Thomson pourrait avoir raison quand il dit que l'Œdipe roi est moins un opéra qu'un oratorio à propos d'un opéra. Ou, selon Paul Bauschatz, la mise en scène de l'opéra semble représenter une leçon d'histoire de l'art au sujet de statues apparemment classiques grecques qui chantent, où le narrateur est le professeur. Vous remarquerez le minimalisme des mots de narrateur. J'ai mis en caractère gras les mots et les noms les plus importants et j'ai souligné les éléments qui offrent ici au spectateur une interprétation facile ou, pour ainsi dire, prête à porter, ready-made. À ce propos, malheureusement, je sais que les mots qui suivent ici ne sont pas les mots écrits par Jean Cocteau. Je n'ai pas pu trouver le livret de Cocteau. Plutôt, ce sont les mots de Mireille Ribière, une traductrice québécoise qui a fait sa traduction à partir de la traduction anglaise qui a elle-même été faite à partir de la traduction russe. C'est « Chinese Whispers » en anglais. Je suis désolée pour cela. OK. Le prologue. Spectateur, vous allez entendre une version latine d'Œdipe roi. Afin de vous épargner tout effort d'oreille et de mémoire, et comme l'opéra oratorio ne conserve des scènes qu'un certain aspect monumental, je vous rappellerai au feu et à mesure le drame de Sophocle. Sans le savoir, Œdipe est aux prises avec les forces qui nous surveillent de l'autre côté de la mort. Elles lui tendent, depuis sa naissance, un piège que vous allez voir se fermer là. Voici le drame. Thèbes se démoralise. Après le sphinx, la peste. Le cœur supplie Œdipe de sauver sa vie. Œdipe a vaincu le sphinx. Il promet. Premier acte. On chante un peu. Et puis, le narrateur. Voici Créon, beau-frère d'Œdipe. Il revient de consulter l'oracle. L'oracle exige qu'on punisse le meurtre de Laios. L'assassin se cache dans Thèbes. Il faut le découvrir, coûte que coûte. Œdipe se vante de son adresse à deviner les énigmes. Il découvrira et chassera l'assassin. Œdipe interroge la fontaine de vérité, Tirésias le divin. Tirésias évite de répondre. Il n'ignore plus qu'Œdipe est joué par les dieux son cœur. Ce silence irrite Œdipe. Il accuse Créon de vouloir le trône et Tirésias d'être son complice. Révolté par cette attitude injuste, Tirésias se décide. La fontaine parle. Voici l'oracle. L'assassin du roi est un roi. Deuxième acte. La dispute entre les princes attire Jocaste. Vous allez l'entendre les calmer, leur faire honte de vociférer dans une vie malade. Elle ne croit pas aux oracles. Elle prouve que les oracles mentent. Par exemple, on avait prédit que Laïus mourrait par un fils d'elle. Or, Laïus a été assassiné par des voleurs au carrefour des trois routes de Daulé et de Delphes. Trivium, carrefour. Retenez bien ce mot. Il épouvante Œdipe. Il se souvient qu'arrivant de Corinthe, avant sa rencontre avec le Sphinx, il a tué un vieillard au carrefour des trois routes. Si c'est Laïus, que devenir? Car il ne peut retourner à Corinthe, l'oracle l'ayant menacé de tuer son père et d'épouser sa mère. Il a peur. Le témoin de meurtre sort de l'ombre. Un messager annonce à Œdipe la mort de Polybe, le roi de Corinthe, et lui révèle qu'il n'était que son fils adoptif. Jocaste comprend. Elle tente de tirer Œdipe en arrière. Elle se sauve. Œdipe la croit honteuse d'être une femme de parvenue. Cet Œdipe, si fier de deviner-tu, il est dans le piège. Il est le seul à ne pas s'en apercevoir. La vérité le frappe sur la tête. Il tombe de haut. Et maintenant, vous allez entendre le monologue illustre « La tête divine de Jocaste est morte », monologue où le messager raconte la fin de Jocaste. Il peut à peine ouvrir la bouche. Le cœur emprunte son rôle et l'aide à dire comment la reine s'est pendue et comment Œdipe s'est crevé les yeux avec son agrafe d'or. Ensuite, c'est l'épilogue. Le roi est pris. Il veut se montrer à tous, montrer la bête immonde, l'inceste, le parricide, le fou. On le chasse avec une extrême douceur. Adieu, adieu, pauvre Œdipe. Adieu, Œdipe, on t'aimait. Nous voyons que le narrateur nous indique comment comprendre l'opéra à chaque pas. Si vous connaissez la pièce de Sophocle, vous remarquerez quelques différences. Un exemple suffira. Contrairement à la pièce grecque, il n'y a pas de monologue du messager, parce que le messager est catatonique et ne peut pas dire plus que « divum jocastae caput mortuum ». Au lieu de cela, Stravinsky fait en sorte que le cœur ébauche le suicide de Jocaste et l'automutilation de l'Œdipe. Maintenant, je voudrais me concentrer sur le livret latin. En général, les érudits ont désapprouvé le livret de Danielou. Par exemple, Joseph Farrell dit que, en dépit de l'insistance de Stravinsky sur le fait que le latin du livret est classique et non médiéval ni ecclésiastique, c'est un fait évident que le latin de l'Œdipe, loin d'être pur et classique comme Stravinsky le prétend, est en fait un hybride monstrueux. Le texte latin de Stravinsky est plein d'écrates volontaires par rapport aux normes classiques, mais également de pures et simples erreurs de typographie, orthographie, diction, grammaire et syntaxe. De même, Marianne MacDonald écrit « Son latin eut du mal à égaler la richesse de Sophocle ou même le latin richement poétique de Virgile, mais c'était un latin ecclésiastique étiolé, chétif, qui contenait même des erreurs. Bref, c'était presque une caricature de le texte grec, du texte grec original. » À mon avis, c'est un jugement bien étrange. Je ne suis pas convaincue que « riche » est le meilleur adjectif pour la langue de Sophocle. Et je suis certaine que la langue de Virgile n'est pas utile comme comparaison. Stravinsky a voulu obtenir une esthétique primitive et un ton sacré, choses qui ne sont pas associées avec la langue latine de l'époque classique, mais avec celle des ères antérieures et postérieures. Comment atteindre un jugement juste? De préférence, nous devons nous demander si le livret latin réalisait le but de monumentalité que Stravinsky a exprimé si fort. Pour moi, Danielu achève absolument cette monumentalité linguistique. Il y arrive par la répétition, encore et encore, dans chaque scène, de quelques mots importants. De cette façon, le livret acquiert une austérité raide qui correspond à la musique. Voici un exemple pris au début de l'opéra. Je lirai le texte latin. Vous avez la traduction française sur le PowerPoint. C'est le cœur qui parle. Caedit nos pestis, teba peste moritur, et peste serva nos, qua teba moritur. Oedipus adest pestis, et peste libera urbem, urbem serva morientem. Le livret insiste sur le fait que la ville de Thèbes meurt à cause de la peste et veut être libérée et sauvée. Oedipe répond comme suit. Liberi, vos liberabo apeste, ego clarissimus Oedipus vos diligo, ego Oedipus vos serverbo. Dans sa réponse, il reprend les mots importants et ajoute quelques éléments nouveaux. À son tour, le cœur reprend les mots d'Oedipe. Serva nos aduc, serva urbem, Oedipus, serva nos clarissime, Oedipus, quid faciendum, Oedipus, ut liberemur. Ici, nous pouvons voir clairement la construction de la langue lapidaire de l'opéra. Vous avez un autre exemple ici dans le récit de Créon quand il est revenu avec la réponse de l'oracle d'Apollon. S'il vous plaît, remarquez la grande insistance sur les mots ulcisci, reperire, peremptor, latere et luere. Créon. Respondit Deus, laium ulcisci, scelus ulcisci, reperire peremptorem. Tebis peremptor latet, latet peremptor regis, reperire opus istum, luere tebas, tebas a labe luere, caedem regis ulcisci, regis lai peremti, tebis peremptor latet, opus istum reperire, quem de peli Deus jubet, peste inficit tebas. Danielu maintient cette méthode tout au long du livret. Toujours le choix des mots dans chaque épisode fait écho, récapitule, renforce et anticipe les idées les plus importantes. De la même façon, Danielu fait adroitement écho du verbe reperire qui était présent dans le passage que nous venons de regarder ici, dans le dialogue entre le messager et le berger. Repereram in monte puerem oedipoda, de relictum in monte parvulum oedipoda, vulneratum pedes parvulum oedipoda, repereram in monte, atuleram pastori puerum oedipoda. Et les mots du messager sont répétés rapidement quand le messager et le berger chantent ensemble. In monte repertus est, amatre de relictus, amatre de relictum in montibus reperimus, laio iocastaque natus, pereptor lai parentis, coniux iocastae parentis, utinam ne dicares, opportebat tacere, numquam dicere istud, a iocasta de relictus in monte repertus est. Et j'ai plusieurs exemples, mais il n'y a assez de temps. Eh bien, Marianne MacDonald a mentionné le latin de Virgile quand elle parlait du latin de Daniel. Elle a tort, à mon avis. Il n'avait aucune intention de reproduire le latin de Virgile, mais il s'est tourné ailleurs pour trouver de l'inspiration. Je veux vous persuader que le latin de Daniel est surtout influencé par la tragédie Oedipe de Sénèque le Jeune. Personne n'a démontré cette influence jusqu'à présent. On a dit que l'opéra doit plus à Sénèque qu'à Sophocle, à Siegel, et on a eu l'intuition que la langue de Sénèque est importante, Boyle, mais personne n'a compris la profondeur de cette influence. Sénèque le Jeune était le philosophe de l'école stoïcienne qui est devenu précepteur du jeune empereur Néron avant d'être discrédité et acculé au suicide en l'an 65. Outre ses nombreux traités philosophiques comme de la colère, de la vie heureuse, de la brièveté de la vie et surtout ses lettres à Lucilius, il a aussi écrit 8 tragédies sur des thèmes grecs. Ces tragédies ont exercé une influence très importante sur le théâtre tragique de l'Italie, de la France et de l'Angleterre, particulièrement sur le théâtre classique français au XVIIe siècle. Sans Sénèque, il n'y aurait eu ni Corneille ni Racine. Depuis ce temps-là, on a critiqué et repoussé les tragédies de Sénèque, et ce phénomène persiste malheureusement jusqu'à nos jours. On reproche à ces drames d'être pleins d'horreur épouvantable, de violence spectaculaire et de rhétorique amphigurique. Je voudrais qu'au lieu de dédaigner Sénèque, on apprécie son importance. Donc, maintenant, je vous propose quelques exemples pour montrer comment Daniel semble être tourné vers le texte du tragédien romain. Nous avons déjà lu l'épisode dans lequel Créon répète les mots de l'oracle. Quand l'Œdipe de Sénèque le contraint à parler contre sa volonté, Créon dit Caedem expiari regiam exilio Deus et interemptum laem ulcisci jubet, non ante caelum lucidus curat dies haustusque tutos aeteris puri dabit. Et Oedipe répond Et quis peremptor incluti regis fuit, quem memoret ede foibus ut poinas luat. Ici, il y a une convergence remarquable de vocabulaire entre le drame latin et le livret de Daniel. Peut-être que cela ne vous étonne pas, mais il faut être étonné. pourquoi. Le mot péremptoire est très rare, très rare. Selon le Oxford Latin Dictionary, ce mot n'apparaît que 3 fois dans toute la littérature latine. Ici et 2 fois chez Apuley. Daniel utilise souvent ce mot d'un bout de l'opéra à l'autre. Un autre exemple, dans l'opéra, quand on mentionne le trivium, le lieu du maître de Laïos, l'Œdipe de Stravinsky de Daniel annonce Pavesco subito, Jocasta, Pavesco maxime. Hein, un moment plus tard, avec plus d'insistance, Pavesco maxime, Pavesco, Pavesco subito, Jocasta, Pavo magnus, Jocasta, in me, in est, subito Pavesco, uxor, Jocasta. Il y a beaucoup de mots en latin qui veulent dire avoir peur. À mon avis, ce n'est pas une coïncidence que Daniel emprunte ici un mot de la première allocution d'Œdipe de Sénèque. Et vous l'avez là. Cuncta ex pavesco, meque non credo mihi. Daniel a pris ce mot et a fait de ce mot un thème majeur. Quelquefois plus encore, nous trouvons que le choix du vocabulaire de Daniel est clairement influencé par les mots de la pièce de Sénèque. L'exemple qui fait pencher la balance est une citation exacte. Le cœur demande l'aide des dieux parce que et premitur funere funus. Ces mots sont repris de Sénèque, premitur quae juncto funere funus. Mais c'était un mot particulier qui m'a donné le premier indice quant à la méthode de Daniel. Ce mot se trouve au début de l'opéra quand Œdipe promet à Créon non reperias vetus scelus, tebas eruam. Ici, nous avons un verbe assez rare, eruere. Sa signification est retirer, déraciner, ou comme l'Oxford Latin Dictionary dit, to remove, dig up, uproot, pluck out or tear out. Selon moi, Daniel s'est évidemment inspiré des mots de Tirésias dans Sénèque, quand Tirésias dit fata eruantur, on doit déraciner le destin. Et ce verbe se retrouve 2 autres fois dans la pièce latine, prononcée par Jocaste et par le messager qui décrit l'automutilation d'Œdipe. Il éruerait ses yeux. C'est horrible. J'espère d'avoir démontré que Daniel s'est tourné non vers Virgile, mais vers Sénèque pour son inspiration, quand la commission d'un livret pour l'Œdipe roi est arrivée jusqu'à lui. La langue de Sénèque a été une source véritable pour le jeune traducteur. Il a sélectionné quelques mots de Sénèque et puis il les a répétés jusqu'à ce qu'ils soient devenus une structure monumentale créée par l'insistance de cette répétition. De plus, le choix de Sénèque comme modèle n'est pas limité aux mots, mais s'étend aussi à son interprétation de l'intrigue de l'Œdipe comme une expérience d'horreur inéluctable. Il y a quelque chose de primitif et de brut dans la vision du monde de Sénèque que nous ne trouvons pas dans Virgile. Pour Sénèque, l'histoire d'Œdipe est une expérience de peur et de fureur avec l'horreur d'affronter le pouvoir du destin et l'inutilité de s'opposer à ce destin. Dans la dernière partie de ma conférence, je m'intéresserai à la mise en scène et au tournage de l'opéra de Stravinsky par l'Américaine Julie Taymor, 65 ans plus tard. Peut-être connaissez-vous ces films, Titus, Frida, Across the Universe, and The Tempest, ou sur scène, The Lion King et Spider-Man. Elle n'avait pas dirigé d'opéra avant le déploi, mais elle avait étudié le mime, la danse rituelle, la danse avec masque, les marionnettes et bien d'autres techniques dramatiques. C'est à 16 ans qu'elle s'est inscrite à l'école de mime à Paris, à 16 ans. Et c'est là qu'elle s'est immergée dans les films de Fellini et Kurosawa. Plus tard, elle a étudié à la Société américaine des arts orientaux à Seattle. Ensuite, elle est allée en Tchécoslovaquie, au Japon et en Indonésie pour approfondir sa compréhension de l'art théâtral. Le chef d'orchestre japonais, Seiji Ozawa, qui avait déjà exploré des collaborations musicales entre le Japon et l'Occident, a invité Taymor à diriger l'opéra de Stravinsky à Matsumoto en 1992 pour la première fête de Saito Kinen. Taymor était un très bon choix, dû à son expérience des formes dramatiques japonaises. Elle a introduit des éléments du drame no, de la danse kabuki, des marionnettes bunraku et de buto, une forme théâtrale. Elle a choisi les chanteurs occidentaux, parmi lesquels Jesse Norman, Bryn Terfel, et Philip Longridge. Elle a choisi l'actrice japonaise Kayoko Shiraishi pour jouer le narrateur et le danseur japonais Min Tanaka pour doubler le rôle d'Oedipe. Le chorégraphe et le créateur des costumes étaient tous deux japonais. Taymor a elle-même créé et sculpté les masques. Il y a eux deux représentations sur scène et un film, tous dirigés par Taymor. Le film a gagné un Emmy pour les costumes et la sculpture de corps, body sculpture, et aussi le prix du jury à la fête internationale du film sur l'art à Montréal. J'aimerais aussi vous faire découvrir ce film extraordinaire qui est, à mon avis, très fidèle au but de Stravinsky. Et voici le début de l'opéra, où le narrateur japonais fait l'introduction et la musique commence. Vous verrez le chœur des gens de Thèbes et les danseurs qui représentent les victimes de la peste.
Minasama, yokoso okoshi kudasai mashita. これからご覧いただくのはラテン語のオペラエディプス王ソポクレスの悲劇が元になっておりますがそのさまざまな場面のうち要となるいくつかを描き出したものでございます事の進みゆきにつれてよくしようこそお越しくださいましたこれからご覧いただくのはラテン語のオペラエディプス王ソポクレスの悲劇が元になっておりますがそのさまざまな場面のうち 要となるいくつかを描き出したものでございます。ことの進みゆきにつれて、私が皆様を物語の世界へお連れいたします。エディプスはそれと知らぬまま自然を超えた大いなる力に歯向かう。死の彼方から我々を見守る眠りを知らぬ神々に、この世に生まれ落ちたその時に罠は仕掛けられ、まず皆様が目の当たりになさるのはエディプスがその罠にはまる様。さあドラマの幕は切って落とされます。テイバイの町は危機に瀕している。スフィンクスは倒れたが、その後疫病が蔓延し、コロスはエディプスに町を救うよう嘆願する。彼は町の救済を約束します。
J'espère que vous avez remarqué dans cet extrait le passage soudain de l'immobilité voulue par Stravinsky à la violence. D'abord, le narrateur semble ne pas bouger et glisse imperceptiblement sur la scène, qui est un élément emprunté au théâtre No. Puis, il y a la violence soudaine quand le narrateur déchire le rideau, la violence soudaine de la musique et la violence soudaine avec les marionnettes des vautours qui attaquent les gens de Thèbes. Par certains aspects, Taimur s'écarte de la conception originale de Stravinsky, mais par d'autres aspects, elle la maintient fermement. Elle a écrit vouloir chercher des images abstraites et primitives. Ce but se manifeste tout de suite dans la mise en scène immense créée par George Tsipin. La mise en scène veut évoquer les puissances naturelles, surtout l'eau, qui a une grande importance dans l'iconographie japonaise. La scène montre une énorme colline avec un pont fait de lattes de bois au-dessus d'un bassin d'eau noire, représentant la pollution dans la cité de Thèbes. En haut, le pont de bois était reflété comme dans un miroir. On y a suspendu un grand disque qui peut être interprété comme la lune ou le soleil ou la matrice ou l'œil. Derrière, il y a un grand mur qui comprend un écrin métallique plié et couvert d'or. À propos, à la fin du film, après que la musique a cessé, Taymor lâche un déluge purifiant qui commence quand Œdipe, tout seul, part de Thèbes. Ce déluge qui nettoie l'argile du corps des gens de Thèbes est le signe que la pollution est terminée. Selon Taymor, elle s'est inspirée pour le décor, les masques et les costumes, de la ressemblance entre la céramique des tombeaux japonais dits Aniwa et la sculpture cycladique préhellénique. J'ai les images pour vous. Aniwa et le cycladique. En particulier, les masques pour les rôles principaux avaient la caractéristique cycladique d'apparence humaine sans avoir de personnalité individuelle. Les visages n'ont pas d'yeux ni de bûches. Pour Taymor, c'est une indication d'absence de pouvoir. Les masques d'Œdipe, de Créon, de Tirésias et de Jocaste sont montés au-dessus des têtes des chanteurs et augmentent donc beaucoup leur taille sans assourdir leur voix. Le maquillage lourd donne le même effet d'absence de personnalité individuelle. Chaque personnage a des mains énormes pour exagérer ses gestes. Œdipe a les mains levées avec les doigts tendus. Les mains de Jocaste sont courbées pour exprimer parfois la bénédiction et parfois l'horreur. Les mains de Tirésias sont vraiment immenses et comme des griffes. Et pour Créon, le pouce et l'index font un signe d'accusation. Et c'est Julie Taymor avec Créon, avec Bryn Terfel. C'est Créon en costume. Et les costumes suggèrent les manteaux grecs et aussi les kimonos géométriques du théâtre no. Le cœur est un élément important pour créer un effet de monumentalité. C'est un cœur de 80 personnes. Et la chorégraphie les fait se déplacer tous ensemble, sans individualisation. Vous avez déjà vu cela dans le premier épisode de l'opéra, quand ils titubent dans, la nuit des morts vivants à Thèbes. Les 20 danseurs sont anonymes à cause de l'argile qui les couvre. Cette argile voulait rappeler l'apparence de la sculpture cycladique et en même temps la peinture du corps utilisée dans l'art japonais Buto. Cette forme de danse est arrivée après Hiroshima pour protester contre les formes de danse au Japon qui étaient dérivées de la danse occidentale. Buto utilise de l'argile pour recouvrir le corps et des mouvements très lents et réglés pour explorer des thèmes très difficiles et inquiétants. On a dit que quand Taymor nous montre les figures couvertes de poussière grise au début de l'opéra et à la fin de flocons d'argile tombant comme de la peau morte, elle fait allusion aux séquelles d'Hiroshima. Dans ces éléments, le décor, les masques et les costumes, il me semble que Taymor reconnaît vraiment le désir de Stravinsky de créer un effet de monumentalité réalisé par l'élimination de la personnalité individuelle. Elle se démarque du désir de Stravinsky en utilisant les marionnettes et les doubles de façon bien dynamique. Les marionnettes et les doubles miment et reflètent l'intrigue. Mais en même temps, ces méthodes remplacent l'individuel par l'abstrait, ce que Stravinsky aurait pu approuver. Ce qui est absolument central à la conception de l'opéra de Taimur est l'image d'Œdipe comme une marionnette manipulée par le destin. C'est pourquoi elle présente le double d'Œdipe en danse. Nous avons déjà vu le danseur au début du film. Il a pris une position fœtale, suspendue dans les airs, dans une structure en forme d'œuf. La ligne d'étoffe rouge qui part de son ventre représente évidemment le cordon ombilical, mais il évoque en plus le fil du destin. Le chanteur se tient presque immobile quand il chante, Stravinsky en serait content, mais les mouvements du danseur sont plus compliqués. De temps en temps, il mime les mots d'Œdipe et à d'autres moments, il présente un contrepoint aux mots chantés. Par exemple, dans la scène au début que vous avez vue, le danseur porte l'armure devant lui, mais il a le dos nu. À la fin du film, l'armure est ôtée de son corps juste avant qu'Œdipe se mutile. À ce moment, les deux Œdipes fusionnent ensemble quand le danseur poignarde les yeux du masque du chanteur et puis, en se tournant vers nous, il révèle les bandes d'étoffe rouge sortant de ses propres yeux. Oh, c'était le bouton. Pardon. Je voudrais finir cet après-midi en montrant le duo entre Œdipe et Jocaste, juste après qu'elle a dit le mot « trivium », « carrefour ». Le cœur saisit ce mot directement. Vous voyez comment Taimur a rendu la musique monumentale de Stravinsky. Il y a une représentation symbolique de l'incident au carrefour dans lequel le fil rouge qui était plutôt le cordon ombilical, indique ici les trois routes. Puis, vous voyez comment le danseur tombe sur une énorme figure féminine de style cycladique.
Oh,
L'extrait nous donne un superbe exemple de tous les éléments dont j'ai parlé cet après-midi. La monumentalité de la musique de Stravinsky, le style lapidaire du livret de Danielou et la puissance de la réalisation cinématographique de Taymor. Et pour moi, avoir découvert l'influence palpable de Sénèque sur l'opéra, c'est l'aspect le plus intéressant. Le mot grec de Sophocle est presque entièrement disparu. Il a été remplacé par les mots, les idées et la sensibilité de Sénèque. Tout correspond avec la vision de Stravinsky. Le dramaturge romain et le compositeur russe Tudor comprendre l'intrigue d'Oedipe comme étant l'histoire des horreurs spectaculaires de la peste à Thèbes et de la terreur du roi qui, à la fin, pris au piège, sort de la vie malade comme bouc émissaire. Nous ne sommes pas ici dans le monde rationaliste de Sophocle ou de Virgile, mais dans un monde primitiviste bien exprimé par la musique et les mots. Merci.